Aujourd'hui, Ote Romane. Non, pas Erotoman, mais Ote Romane, comme Otero, comme la belle Otero. Il y a quelques années, quelques automnes, disons, lors d'une balade en Galice, avec l'ami Ramon Chao, on avait mis nos pas dans les pas de la belle Otero. Et on était allé dans son pays, en Galice, dans le village où elle naquit. Bon, et puis aussi, il faut dire que, on peut dire Ote Romane, mais on peut dire aussi Erotoman, parce que, nous dit Ramon Chao, elle croyait à la force du sexe comme mode d'appartenance au monde. Eh oui.
La copulation du taureau et de la vache était devenue une de mes obsessions. L'événement du village. À Valga, il n'y avait pas de taureau. Pour engrosser les vaches, les paysans s'entendaient avec un voisin qui avait un reproducteur et choisissaient un bœuf au hasard. Ils amenaient les mâles en les tenant par un anneau qui lui perforait le nez. On lui bandait les yeux et pour l'exciter, on lui passait sur les mufles l'animal sélectionné. Quand les mâles percevaient l'odeur, ils grattaient les sols et reniflaient. Alors les pénis croissaient démesurément. Les reproducteurs montaient sur les bœufs et tentaient de les pénétrer. Les gros bras en profitaient alors pour remplacer le bœuf par la femelle qu'ils voulaient engrosser. Et à deux, ils s'enfonçaient les membres dans les vagins. Une poussée, une autre, et encore une autre. Sans réaliser qu'on les trompait, ce sacré animal était très capable d'engrosser 6 vaches de suite. Il était épuisé, mais il était dangereux de rester à sa portée. Dès qu'il l'avait un peu récupéré, il s'est lancé sur les premiers êtres qu'il repérait.
La belle Otero, en effet, on le découvre, écrivait. Elle écrivait, elle a écrit des cahiers où elle a noté des grands passages, des grands moments de sa vie. Et j'ai en face de moi celui qui a découvert les cahiers de la belle Otero, c'est Ramon Chao. Bonjour.
Bonjour.
Alors Ramon Chao, on se connaît, on va pas faire comme si on se connaissait pas. Il y a quelques années, tu nous avais emmené dans le village natal de la belle Otero à Valga. Mais avant, il faut dire une chose, c'est que Valga, c'est en Galice, ce village de la belle Otero, et que l'une des raisons de ton intérêt pour la belle Otero, c'est qu'elle est galicienne.
Oui, et que mon père parlait beaucoup d'elle. Il parlait beaucoup d'elle, de Maria Casares et de Vallenclán. C'était les 3 Galiciens qu'il mettait au sommet de ce qui existait à ce moment-là.
Alors, en 99, ensemble, on avait fait une balade en Galice. Tu étais notre guide du village natal de la belle Otero. À l'époque, tu ne nous avais pas dit que tu avais découvert les cahiers de la belle Otero.
À ce moment-là, j'étais dans une pré-hémorragie cérébrale que j'ai eu depuis. Donc, il se peut que ma mémoire ne fonctionne pas très bien.
Bon, en tout cas, la belle Otero, elle avait de la mémoire puisqu'elle a écrit dans les années 50, hein, ces cahiers qu'elle a rédigés dans les années 50. Elle est âgée, elle est née en 1886.
Oui, je suis arrivé en France en 55. Mmh. Et je l'ai vue en 57 et 58. Alors, c'est au moment de sa mort, quand je suis qu'elle était morte, je suis revenu à Nice parce que les journaux parlaient d'un coffre. On avait retrouvé la clé d'un coffre, mais pas le coffre. Alors, je trouvais le coffre dans son antiquaire et c'est là que je retrouvais le manuscrit. Or, ce manuscrit, d'après ce qu'elle raconte, etc., il a dû l'écrire, le terminer 200 ou 300 avant sa mort. Donc, vers les 65. Elle avait 85 ans, ouais.
Et alors, dans ses cahiers, elle raconte sa jeunesse. Elle raconte sa jeunesse, donc, à Valga, où on va retourner. Sa vie ensuite à Saint-Jacques-de-Compostelle, la capitale de ton pays, la Galice. Ensuite, on va la retrouver à Lisbonne, et puis à Barcelone, et puis ensuite à Porto. Et c'est en fait la jeunesse de la belle Otero avant qu'elle ne rencontre toutes les gloires qui ont fait sa propre gloire. En tant qu'elle était une courtisane, bien sûr, on sait bien qu'elle était une grande courtisane. Mais alors, ce que je propose, c'est que on revienne donc à Valga, on est en 1999, on se balade à Valga. On savait pas du tout que t'allais devenir un tel, qu'on va dire, otéromane ou érotomane. Parce que c'est quand même, t'en as fait un personnage superbe, un superbe personnage de femme.
Je n'ai fait que mettre un peu lisible ce qu'elle avait écrit.
C'est ça.
D'accord, oui. C'est elle, tout le mérite lui revient.
Oui, mais t'as quand même été obligé de travailler un peu sa langue, parce qu'elle écrivait à la fois en galicien, en français, c'était un mélange.
Oui, et sa langue maternelle, évidemment, était le galicien. Ensuite, elle a appris l'espagnol un peu à l'école, mais elle est partie assez vite. D'abord, elle a été violée à l'âge de 12 ans, et ensuite, elle est partie, parce qu'on ne la voulait plus dans les patelins. Elle n'a pas continué ses études à l'école, et à partir de là, elle a été en Catalogne, elle a dû écouter beaucoup de Catalans. Elle est venue en France, et elle était aux États-Unis, donc elle mélangeait tout, la pauvre.
Ça se présentait comment, ces cahiers?
Ben, c'était des cahiers d'écoliers, comme de l'école, parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle était dans la misère, hein. Donc, des petits cahiers, il y en avait 12 ou 13. Il m'en reste encore, hein. Il m'en reste encore, mais j'ai voulu faire la partie espagnole. Et ensuite, je sais pas si je m'y mettrai pour la seconde partie, je sais pas.
Alors là, on va, l'Abel Otero, évidemment, il y a une légende, hein, de l'Abel Otero. On va se balader dans la légende de l'Abel Otero. On va se balader à Valga, dans son village natal, avec les gens d'aujourd'hui, tels qu'on les a rencontrés en 1999. Et puis après, on va parler de ce bouquin qui s'appelle La Passion de Caroline Otero, donc par un otéromane érotomane, Ramon Chao. Salut, c'est Daniel Mermet avec Ramon Chao et Guy Vanctil. Là-bas, si j'y suis, en Galice, avec la belle Otero.
Flight number 2, arriving from
Délice en Galice aujourd'hui, froufrou, fripons, frissons, embaumés, valses, énamourés, Barcarolle sous la tonnelle, champagne, petite femme. Pas moisson. Et un coup de feu. Sur les marches du casino, oh, encore un milliardaire qui se tue pour les grands yeux noirs et voluptueux de la sirène du suicide. La plus grande courtisane de tous les temps, la belle Otero. Espagnole, disait-on, avec son tempérament de feu. Andalouse, même, à cause des yeux, de la cambrure. Faux, c'est faux, disent les Galiciens, car elle était galicienne. Augustina Carolina Otero, née à Valga. Un bourg, il faut le dire, peut-on le dire, sans grâce, mais galicienne. Alors pourquoi le dire si peu, pourquoi le dire si tard? Eh bien, fallait-il le dire? Fallait-il s'en vanter? Car grande elle fut, la belle Otero. Mais courtisane, comment voulez-vous édifier des enfants, des jeunes filles avec un tel modèle? Alors à Valga, comme ailleurs, comment auriez-vous fait? Eh bien, on a hésité. Et on hésite toujours. Faut-il ou non se vanter? Faut-il ou non mettre une plaque sur la maison natale de la belle Otero? Faut-il répondre à l'idée de construire une statue, d'édifier une statue près de la petite fontaine de ce petit village? Eh bien, voilà la question. La belle Otero a été une fabuleuse, extraordinaire, merveilleuse légende, un mythe féminin à elle toute seule, mais on a l'impression que tout a été dit, écrit. Comme on n'a plus le dire et l'écrire, elle a effrayé la chronique. On va voir que dans ce petit village de Galice, elle est toujours là, toujours présente, et qu'elle alimente toujours les rêves.
Oh, qu'est-ce que c'est? Mais attends, c'est un lapin.
Il y a deux lapins, là, deux lapins.
Mais c'est des vrais lapins, il y a un lapin noir.
Et un blanc aussi.
Il y a un blanc. Mais ils sont en liberté totale dans cette... Ouais.
C'est la maison de la belle Otero.
Oh là là, mais c'est en ruine, c'est une ruine totale.
C'est bien, 4 mètres.
Toute petite maison de rien du tout. En ruine, la toiture défoncée. Quelques herbes, un peu de vigne.
Alors elle habitait ici avec sa mère. Alors, on ne connaissait pas son père. Pas qu'il était son père. Et sa mère habitait ici.
Elle était née quand?
1886.
Ici naquit la belle Otero.
La belle Otero.
Qui s'appelait?
Elle s'appelle Augustine Otero. Non, foi aquí. Donde la?
Une dame qui nous emmène, qui est un petit peu.
Elle
qui?
On la monte à la main.
Qui emmène la main. C'est une dame qui, qui est un petit peu folle.
Alors elle nous dit que c'est en fait c'est ici. Hein?
Elle veut nous montrer les pierres.
Ah, elle veut montrer les pierres de la maison.
Viens, viens, viens.
Alors on rentre dans la cour de la maison et on entre dans un jardin avec un monsieur qui nous montre le linge sèche, les petites culottes, les caleçons, les pantalons, les chaussettes. Là on découvre
c'est la partie arrière de ce qu'on a vu. C'est, je pense qu'elle nous dit que oui, que, bon, et qu'elle était très belle. Je pense qu'elle nous dit ça.
Ah, elle la belle, le geste, elle fait le geste de la beauté.
C'est claro, claro, claro.
Ouais. Vous savez qui c'était?
Sí, una mujer muy conocida, por eso con políticos y muy guapa, ¿no?
Sí, parce que, bon,
es famosa por su belleza.
Bon, elle a été très connue à cause de sa beauté et parce qu'elle a couché avec des gens très importants. Ouais, des politiciens, elle dit.
Mais si on parlait, regarde, il y a une belle Otero là. C'est une jeune femme superbe qui est bien en bonne santé. Est-ce que ça vous plaît, vous, d'habiter dans la maison, tout près de la maison de la belle Otero?
Si, me gusta, si. Si, me gusta.
Oui, ça lui plaît, ça me plaît, oui.
Ah oui, mais elle a eu beaucoup, beaucoup d'hommes dans sa vie.
Tuvo muchos hombres en su vida. C'est ce qu'on dit, je n'en sais rien.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Yo como no. Uh-huh.
Sí, él montra su poitrina.
Él es guapa, dice.
Él montra su poitrina.
Se podría decir que era una prostituta de alto standing, ¿no?
Sí, una prostituta de alto standing.
Ah, oui, oui.
Ay, vale, pero...
Claro.
Uh-huh. El alto cielo, el señal del cielo, el alto cielo.
Ah... Uh-huh. Mmh. Ouais. Là, on a raccourci ses existences sur la jeunesse et la décadence de la belle Otero. Ouais. Ok, on va continuer notre promenade.
Non, c'est moi.
Pourquoi se venger d'une femme, le temps s'en charge, disait-on dans cette époque qu'on qualifie toujours de belle, celle de la belle Otero. Donc on est dans ce village avec Ramón Chao, et c'est drôle parce que on était avant d'arriver devant cette petite maison en ruine avec ce lapin et cette drôle de présence de cette dame, vieille dame aphasique, on était en train de parler du réalisme magique, on était en train de faire de la littérature sur les écrivains nord-américains comme Garcia Marquez ou Vargas Llosa, et même des écrivains comme Nagui Marfouz ou Cohen, etc. Et voilà qu'on dans ce petit village, on se trouve dans cette situation, dans cette ambiance, en essayant de trouver des fragments de mémoire de cette immense, immense courtisane pour laquelle, pour les beaux yeux de laquelle, tant et tant d'hommes moururent.
Buenas noches.
No, estábamos buscando la casa de Abel Otero, era esa de ahí, ¿no?
Sí, ahí sí.
Est-ce que vous êtes fier d'habiter dans le village natal de la belle Otero?
Sí.
No, oui,
está...
oui.
Sí, estamos aquí.
Sí.
Mais vous êtes fier, mais enfin c'était quand même une femme de mauvaise vie.
Ay, no.
No,
no, no.
No,
no, no, no. No.
Ah bon?
No.
Mais moi, on nous a dit que c'était une femme de mauvaise vie quand sí. même.
Era una mujer de mala vida, ¿no?
No, eso decían cuando estaba fuera, cuando estaba en Francia.
Eso sí, cuando
pero...
estaba en Francia.
Vos dices que él estaba partido en Francia.
Ah,
sí, sí.
Pero aquí de...
c'est... no. Pero aquí, jamás.
¿Es a causa de nous?
Ay, no sé.
Eso no
sé. Pero tenía novios de moito...
Él había de fiancé.
Sí.
Très important.
Qui c'était ses fiancés?
Cosard
de Russie, avec le tsar de Russie, oui.
Nicolas II.
Et oui, il y a mes abuelos, que je ne savais pas.
Mes grands-parents m'ont dit ça, je leur ai dit.
Mes abuelos, ils vivaient, ils savaient beaucoup d'elle.
Mon père et mon grand-père, ils savaient beaucoup d'elle.
En Argentine.
Parce qu'il était en Argentine, mon grand-père, et elle aussi, il était allé en Argentine.
Estaba en un teatro.
Dans un théâtre. Mon grand-père et deux messieurs d'ici, Leopoldo.
Quand a vu, ils disaient à Corderan, elle ne voulait pas être Caroline Otero, donc ils les connaissaient.
Se llamaba Agustina.
Agustina.
Claro, alors là-bas, ils l'ont appelée Agustina, c'est ce nom d'ici, et elle ne voulait pas s'appeler Agustina, elle s'appelait Carolina.
Sí,
Carolina.
De Carolina.
Et qu'est-ce que vous préférez, votre vie, la vie que vous avez, ou celle de la belle Otero?
Moi, je préfère vivre ici tranquille.
Ça vous aurait pas plu des belles robes, de sortir non, avec non, le tsar, de voyager dans des avions?
Voyage, c'est
ça. Non. Elle dit qu'il mourrait mal, qu'il mourrait dans la misère.
On dit qu'elle est morte dans la misère, oui.
Ah oui.
Ça c'est l'école, elle nous dit. Ça c'est l'école où elle a fait
ses études.
Une école publique.
Ok, on va continuer notre promenade. Merci.
Merci.
Une belle bête. Une magnifique bête sauvage chez qui l'instinct prime tout. Qui disait ça de la belle Otero? Eh bien Colette elle-même, qui la décrivait comme une grosse bouffeuse. Dans mes apprentissages, Colette s'émerveille, avec peut-être une pointe de mépris ou de jalousie, du formidable appétit de Augustina Otero, dite Caroline, et que Colette appelait Lina. Et elle dit, dans mes apprentissages, quand Lina repoussait enfin son assiette, c'est qu'elle l'avait vidée 4 à 5 fois, et elle laissait alors avec indifférence son peignoir s'ouvrir, la chemise de jour glisser, jusqu'au vallon d'ombre creusé entre deux seins d'une forme singulière, qui rappelait le citron allongé, ferme et relevé au bout, descendait une parure agrafée comme par hasard, 7 rangs de perles radieuses et rosées, une verroterie de théâtre ou un lourd diamant. Et voilà l'ange tutélaire qui nous accompagne.
Donc, elle est née ici.
Elle est née ici.
En 1800
1886.
1886, elle est née ici.
À 12 ans, elle a été violée. Elle était très belle. Elle était très belle. Et elle a été violée par un cordonnier qui était un peu bossu, un peu. Enfin, une espèce d'avorton. Mm-hmm. Elle était violée à 2-3 kilomètres d'ici, elle avait 12 ans. Et à partir de là, bon, elle ne voulait pas rester ici. Alors il y a une troupe des gitans qui est venue ici faire un spectacle. Et elle dansait très bien, elle était très belle, engagée, soit dit. Hein. Et d'abord, elle est allée à Lisbonne avec eux. De Lisbonne, elle avait déjà 12-13 ans. Ils sont allés à Barcelone. À Barcelone, déjà, elle a commencé à jouer dans les cabarets de Barcelone. Elle avait déjà 14-15 ans. Et là, il y a un impresario qui l'a pris sous sa protection et qui l'a amené à Paris. À Paris, elle a dû arriver vers 17 ans. Et immédiatement, elle est devenue la coqueluche de Paris.
Alors, c'est la belle époque, c'est le tournant du siècle, tout
c'est
début
ça,
du siècle.
C'est ça, tout début du siècle. Et bon, elle est devenue une des grandes courtisanes enfin, de l'époque, la plus grande. Il y avait deux ou trois, enfin, il y avait une grande rivale qui était Liane de Pougy. Liane de Pougy, bon, mais elle a été battue à plate couture. Enfin, il y a eu une fois une fête au Bois de Boulogne pour voir qui était la plus. Et Liane de Pougy est arrivée très bien habillée, avec des chapeaux, avec des bijoux, etc. Et la Bellotero est arrivée normale, et simple, mais sa bonne. Avec plein de bijoux, avec plein de.
C'était la bonne qui était habillée comme Liane de
Pougy. Voilà. Elle est, bon, c'est, évidemment, c'est elle qui a été couronnée la première.
C'est très romanesque, ça.
Oui, oui, mais enfin, ça ne se termine pas là, hein, parce que, bon, elle a eu une vie après, bon, avec tous les monarques, avec tous les rois, avec tous les empereurs, les tsars, Alphonse XIII d'Espagne, Édouard VII d'Angleterre, Léopold II de Belgique, les Kaiser, tous, et les a réunis une fois chez elle.
Ah bon?
Oui, dans son déjeuner, ils ne savaient pas les uns les autres.
Ah bon?
Tous ces, enfin, les grands, seulement, parce que bon, il en avait des centaines, quoi. Et il les a réunis à sa table. Et il avait une passion. Une passion, c'était les jeux. Les jeux, elle voulait gagner beaucoup d'argent pour jouer. Il avait deux passions et deux plaisirs dans la vie. Ce n'était pas faire l'amour. C'était gagner au jeu et perdre au jeu. C'était ses deux plaisirs. Elle s'est retirée en 1918. Elle avait 45 ans. Elle s'est dit, je ne suis plus la plus belle, sûrement pas. Il y a des jeunes qui vont arriver, je ne veux pas être la seconde. Alors elle s'est retirée à la Côte d'Azur, sur la Côte d'Azur, à Nice, à l'hôtel d'Angleterre. Et à Nice, il allait évidemment au casino Monte Carlo, etc. Et là, il s'est ruiné complètement. Et les casinos de Paris lui ont versé une pension. Mais qu'elle dépensait aussi. Bon, à la fin, elle avait des chats, elle protégeait des gens, enfin, et s'est suicidée à 96 ans.
Suicidée. On a une explication de ce geste-là?
Non, on ne sait
suicidée
pas.
À 96 ans.
Oui, elle a ouvert les gaz, elle a fermé bien la cuisine, elle s'est suicidée.
Je ne sais pas si dans un petit siècle, on se baladera sur les traces de Monica Lewinsky. Mais enfin, il y a eu un moment où les grands de cette terre, les têtes couronnées, les richissimes et autres tsars ou présidents n'était pas harcelé par des rapports sur Internet pour la moindre fraudaine. Alors sur les atours et les froufrous des dames de cette époque, des demi-mondaines, comme on disait, quelqu'un a écrit Jean Cocteau, et il a écrit sur l'armure de froufrous de la belle Otero. Il dit, c'était pas une petite affaire. Armure, écu, carcan, gaine, baleine, gants, épaulière, jambière, cuissard, gantelet, corselet, licou de perles, bouclier de plumes, baudrier de satin, de velours et de gemmes, côte de maille, ces chevaliers hérissés de tulle, de rayons et de cils, ces scarabées sacrés armés de pinces à asperges, ces samouraïs de zibeline et d'hermine, ces cuirassiers du plaisir que harnachaient et caparaçonnaient dès l'aube de robustes soubrettes, semblaient raides en face de leur hôte, ne pouvoir sortir d'une huître que sa perle. L'idée de déshabiller une de ces dames était une entreprise coûteuse qu'il convenait de prévoir à l'avance comme un déménagement. Et voilà ce qu'était s'habiller à la belle époque. On est loin, mais on entre quand même dans l'espoir de quelques mots, quelques fragments de mémoire à la source, pourrait-on dire, en entrant dans ce bar de Valga en Galice. Oh, le bar est superbe là. On rentre dans un bar. Très beau, en bois et tout.
No le llamo, como le voy a decir, como le llaman aquí. Aquí en el pueblo se le llama, esto queda grabado, pero...
Igual.
Aquí le llamaban puta.
Moi je l'appelle pas comme on dit tout le monde ici dans le village, puta, putain, non, pour moi c'était pas une putain.
Porque precisamente se ordenó ponerle el nombre de la bella Otero. Aquí alguna cosa, una placa para...
On avait décidé de mettre une plaque avec la belle Otero ou une rue.
Pour réclamarla
et la revendiquer.
Han dicho que para que se querían más putas.
Et les autorités ont dit pourquoi on veut pas davantage de putes.
Y para mí no es.
Fue una niña.
Eso serán aquellas que se dedican a esas cosas. Pero fue una niña violada de pequeña.
Elle a été violée toute petite par un monsieur âgé. Il a attendu dans son endroit dessert.
Et claro, abusó de ella.
Alors, elle l'a violée.
Donde, donde nadie, donde nadie, que es una fiesta, que
un jour d'une fête champêtre.
Que no queda nadie, nadie,
que alors qu'il n'y avait plus personne dans, la, dans, les, dans les parages ici.
Y fue abusó de ella ese día porque claro, la vio.
Il en a profité de l'occasion pour la, parce qu'elle était très belle.
Comment vous appelez?
Yo, Agustina.
Agustina.
Sí.
Agustina.
Como ella.
Comme elle, comme
sí,
la belle Otero.
Sí. Y hay pocos nombres.
Sí.
De estos hay un poco nombres.
Il y en a pas beaucoup. De...
Oui, c'est un beau prénom, je trouve.
Sí.
Agustina. Mais comment est-ce que vous savez tout ça? Vous vous souvenez de tout ça?
Porque he oído mucho hablar en casa de ella.
On en a beaucoup parlé chez nous.
Y además que yo he oído hablar mucho de ella y además que estoy... Interesada porque me gusta mucho.
Oui, alors ça m'intéresse beaucoup le sujet parce que je suis passionné par elle.
Alors donc
si je pouvais aider à la défendre, je le ferais volontiers.
Un día estaba yo en Santiago.
Un jour j'étais à Santiago.
Iba con un taxista.
J'allais avec un taxi.
Y el taxista llevaba el nombre.
Et le taxiste
Valga.
Avait le nom du village, Valga.
Y en un stop paramos.
On s'est arrêté à un stop.
Otro coche.
Et une autre voiture est passée.
Y dijo.
Et lui dit.
Valga, la tierra de la bella Otero,
la bella Otero.
La puta más grande del mundo.
La putain la plus grande du monde.
La plus grande putain du monde.
Entonces yo y el taxista le contestamos, sí, pero no con cualquiera.
Alors nous on lui a répondu, sí, taxi
no
et moi, oui,
y
mais
además,
pas avec n'importe qui, et plus la plus belle.
Pero,
si c'était une statue, elle serait comment la statue de la belle Otero ici?
Oh, seria preciosa.
Serait très beau. Tout le monde viendrait la voir.
Alors, comment? C'est une grande statue ou une petite
alta.
Statue
alta.
Delgada.
très, mais grande comment?
Très maigre. Avec le cou, un grand cou, très svelte.
Comme ça.
Non, comme un ami.
Comme vous.
Pas comme moi. Ah,
comme vous ou pas comme vous?
Non, pas comme elle.
Non, comme elle. Alta, le cuello
grand,
alto.
Un grand cou. Jérôme.
Style bailarinas.
Style danseuse.
En ballerine. En ballerine. Augustina, qu'est-ce que vous préférez? Votre voix à vous, d'Augustina d'ici, du village? Ou de l'autre, Augustina, la belle Otero?
Chacun
a sa personnalité.
Oui, c'est ça. Je
travaille la terre. Et je ne veux pas le style qu'elle avait, la grâce qu'elle avait.
Chacune son style.
Qu'est-ce que j'allais faire dans le monde, moi? Elle avait de la classe, elle avait du style.
Augustina, ça ne vous aurait pas plus quand même un soir d'être à l'Opéra de Paris avec le tsar de Russie?
Non.
Si.
Si. Ah.
Et de dîner avec du champagne.
Pero después, Agustina.
Vignon,
reste,
non.
Mais après, il y avait la suite.
Bueno, mire.
Et la suite?
La suite?
Et que voyez que faire?
Ce qu'il fallait faire.
Oui. También, nous disons ici que quand eligen un amis, que también primero que.
Ici aussi, on dit que quand il y a une Miss Espagne, etc., d'abord, il faut qu'elle passe à la casserole.
Ah oui. Elle se présente.
Mais quand même, elle se présente.
Elle commence à se présenter.
Pourquoi elle est partie avec sa
beauté?
Pour comer les riches. Pour que ce soit mangé, parlé. C'est que les vers de terre vont manger, il vaut mieux que ce soit les chrétiens qui les mangent. Je vais avoir 70 ans. Je suis là en train de remplacer ma fille quelques instants. Mais au lieu de travailler dans la terre, je suis là.
Travailler
ici. Ici, à la barre, là, au bistrot. Et c'est plus agréable
que la terre.
Mais non, me diria yo que mi negocio con la bella Otero detrás.
Mais qu'est-ce que.
Mais
cette affaire avec la vieille Otero ici avec moi, ce serait une grande affaire.
Mais oui, mais c'est ça qu'il faut. Los dos Augustinas. Les deux Augustines, ça s'appelle. Et là, nous, on va faire avec Ramon Chao. On va faire tout ce qu'on peut pour qu'il y ait une grande statue. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de la plaine? Il n'y a rien du tout, il y a une petite fontaine.
Voilà, donc on se met en route pour construire cette statue en hommage à la belle Otero sur cette petite place qui est devant nous, devant ce bistrot, à la place ou à côté de la fontaine. Mais nous sommes des démocrates, on veut savoir ce que veut le peuple, on veut savoir comment on voit les choses. Alors Augustina nous a donné un peu une des impressions, des précisions, l'enjeu que ça représente pour ce village, que cette mémoire et que cette naissance de cette belle Otero qui s'appelait pas encore comme ça évidemment à l'époque. Et voilà la fille de Augustina qui nous donne ses impressions.
Comment serait la statue de la belle Otero qu'on va la mettre? Parce que c'est sûr maintenant, hein?
C'est sûr.
C'est sûr. On va la mettre.
Seguro. Que vamos a hacer una estatua.
Seguro.
A ver.
Mais vous,
vous
la voulez comment, la statue?
Como a quieres?
Pues, eu pediría.
Yo
más que
mandaré,
nada, debido a que el pueblo donde, se formó de la
conducta. ¿Estando el líder que el pueblo se fede de esa conducta?
Pues una chica guapa, elegante,
sí, sí, belle, con un gran, elegante, elegante,
con un gran caballero, rendiendo los pies.
Avec un monsieur, un, son chevalier, que le rend hommage a ses pies.
Sí, de feito había unha, non sei, se era leyenda, se era crónica, que un gran personaje incluso intentou suicidarse por ele e todo.
En fait, bueno. La legenda, non sei se é a legenda da la verité, y a un gran monsieur que a essayé de se suicider por ele. Ele était, c'est le général de Cossacks de Moscou.
Ah bon?
C'est l'un d'eux, il y en a six. Mais celui-là, il s'est plaigné après parce qu'il avait sali sa robe blanche.
En se suicidant.
En se suicidant, enfin, tout la cervelle, tout ça est tombé sur son. Elle s'est plaigné de merde encore, elle m'a sali ma blouse.
Ça, c'est le sixième qui s'est suicidé.
Ça, c'est l'un des six.
Eh oui, comme ils étaient fiers, les hommes qui l'accompagnaient. Aéropage mêlant la noblesse et l'arrogance que donne l'argent, jeunes ou vieux, de se montrer à son bras. Tous laquais de sa beauté, tous esclaves de ses caprices, tous semblables dans le comportement de propriétaires d'un instant, d'une heure, d'une nuit, d'une semaine pour les plus riches. Tous plus fiers de l'exhiber que de la posséder. Combien se contentaient d'un tour de manège au bois contre un clip de diamant, un collier de rubis, une bague d'émeraude. Grimper à ses côtés dans son landau coûtait une fortune aux jeunes héritiers qui voulaient se lancer dans le monde. Oui, mais être vu avec Caroline Otero, ne serait-ce qu'une fois, valait bien quelques dettes, l'hypothèque des biens familiaux, la dilapidation du patrimoine ancestral. Et oui, ainsi Raoul Mill, dans un roman qui est maintenant livre de poche, La Belle Otero, parle des hommes de La Belle Otero. Et c'est vraiment la croqueuse de diamants. Alors, là, on est à Valga, village natal de La Belle Otero, et la conversation intéresse évidemment ceux qui sont là, les hommes qui sont là, et voilà Manolete. Alors Manolete, lui, il a une vision, disons, on va dire plus politique des choses. Il vient à nous avec un très étonnant t-shirt. Manolete.
Oui. Aún es considerada, lo poco que saben es que es una puta.
Y sí, enfin, ce qu'on peut, le peu qu'on sait d'elle, on considère que c'est une pute. C'est
ouais.
Totalmente. Entonces, yo estuve de teniente alcalde en el ayuntamiento.
J'étais maire adjoint à la mairie.
Y no me fue permitido rehabilitarla.
Et on ne m'a pas permis de la réhabiliter.
C'est une affaire politique, c'est-à-dire que la réhabilitation de la Belle Otero est un enjeu politique pour vous ici aujourd'hui.
Sí, sí, a izquierda, et por eso, cuando hicimos estas camisetas...
Quand on a fait ces t-shirts...
Ben oui, parce que vous avez un t-shirt superbe avec un portrait de la belle Otero dans le dos, hein.
Avec la phrase là, ruine-moi, mais ne me quitte pas.
Oh, ruine-moi, mais ne me quitte pas. C'est dans le dos de ce garçon qui est debout dans ce bistrot, avec la belle Otero qui est magnifique. C'est vrai qu'elle est magnifique.
Oui, en Andalouse, en Gitane.
Aïe, 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 aïe. Ruine-moi, mais ne me quitte pas.
C'est un russe qui a prononcé ça.
Un noble russe.
Un noble russe.
Si arruinó, il lo dejó.
Elle l'a ruiné, elle l'a quitté. Mais comment voulez-vous faire de la morale politique avec un modèle pareil?
A Bella Otero, par exemple, tenía un porqué ser así. O sea,
elle avait ses raisons pour être comme ça.
A Bella Otero tenía que ser reivindicada incluso por las feministas.
Oui, même les féministes devaient la revendiquer pour elle.
Et la república significaba el poder de los pueblos contra el poder central monárquico que había en Madrid. Entonces,
alors,
ella...
La république, c'était le pouvoir des régions, finalement, contra el poder central de Madrid. Elle...
Y entonces ella llegó un momento que representaba ese símbolo de poder de los alrededores hacia el poder estatal.
Elle symbolisait donc le pouvoir des périphériques, des régions périphériques d'Espagne, face au pouvoir central de Madrid.
Q Qui eût cru que la belle Otero deviendrait un jour le symbole, quasiment, l'indépendance de la Galice, le symbole de la lutte contre le centralisme castillan? Qui eût cru qu'un jour nous serions là en train de projeter la statue de la belle Otero?
Nous, on dit avec Ramon qu'on va faire une statue avec la belle Otero.
Il faut que ce soit ici, il dit.
D'accord.
Il faut que ce soit ici, pas devant la mairie. Ils ont une rue réservée pour elle.
Sin autoridades locales.
Sans compter sur les autorités locales.
Alors, moi ce que je voudrais savoir, Manolito, c'est comment elle serait la statue?
Es resaltar su cuerpo.
Il faut mettre son corps en relief.
No me parece mal que se resalte sus virtudes, pero también que reconozcan...
No, je ne suis pas contre ceux qu'on mette en premier plan ses vertus, mais aussi...
O corpo que se resalte porque fue un instrumento que llevó a ella para alcanzar el éxito.
Mais surtout son corps, parce que c'est l'instrument dont elle s'est valu pour atteindre le succès.
Lo mejor de ella eran las piernas.
Ce que la vie de mieux, c'était les jambes.
Ah bon? Sí, ¿cómo mira, ça? ¿Cómo lo sé, ça?
Mira, esas medias creo que estén un do o médico desse de Fraisa que te falei.
On peut les retrouver ici, un médecin de Padrón. De Padrón, c'est un village à côté, qui l'a soigné en France.
Mais ça, il faudrait les trouver. Parce que si on fait...
Era el símbolo del erotismo, ¿no? Entonces, el erotismo bien hecho, pues...
Bien sûr, elle était experte en érotisme.
Eh oui.
Alors, l'érotisme bien fait comme ça, c'est bien.
Hace dos meses o tres,
il y a deux mois,
hicieron un programa en la televisión
gallega. Il y a eu un programme à la télévision galicienne.
Pidiendo un poco eso de a ver si se traía y tal.
Reclamé que qu'on puisse ramener son corps ici.
Tiene una nieta y una bisnieta muy muy parecidas en ese empuje.
Elle a une petite fille et une arrière petite fille qui ressemble beaucoup à la belle Otero par leur vigueur et beauté.
Viven ahí, tienen un bar, ¿eh?
Et sont là à côté et ils ont un bar.
Ah bon? Sí, allons boire un coup là-bas.
Perspective. On y va devant cette perspective.
Eh oui.
Ça va, vous allez. Et puis, on me manque.
Adios, hasta luego.
Nous sommes chez les belles Otero.
Ben oui, tu parles, on va la retrouver, nous.
balade à Valga avec Ramon Chao, qui est en face de moi. Ramon Chao, cette histoire, donc cette balade, à la suite de cette balade, donc tu as écrit ce bouquin qui s'appelle La Passion de Caroline Otero. Et donc, on le disait tout à l'heure, c'est ces fameux cahiers, les cahiers de la belle Otero, qu'elle a rédigés un peu à la fin de sa vie, que tu as découvert. Tu as eu la chance extraordinaire de trouver ces cahiers écrits par la belle Otero elle-même, par Caroline Otero, non pas Augustina Otero, mais Caroline Otero. Et tu as mis ça un peu en forme, on le disait tout à l'heure, parce qu'elle écrivait dans une langue à la fois le galicien, le portugais, l'espagnol, etc. J'ai sous les yeux une photo de la belle Otero.
Bellissime.
Bellissima. C'était ouais. une beauté, ouais. mais ah, c'est ouais. une splendeur. Ouais. C'était une splendeur extraordinaire. Or, dans ton bouquin, c'est sa jeunesse, c'est son enfance, donc, à Valga, là où on... Et puis après, on passe de la petite paysanne rustique, rustre et rusée à, elle finit dans les bras de Gaston Eiffel.
Oui. Mais je pense qu'elle avait mauvaise conscience, parce qu'elle avait dicté ses mémoires à deux journalistes deux fois. Évidemment, elle disait ce qu'elle voulait. Mais elle n'avait jamais touché la partie espagnole ni espagnole. Et ça commençait toujours dès qu'elle arrivait à Paris. Elle racontait sa vie enjolivée, évidemment. Mais quand on parle de ses livres, j'insiste beaucoup que c'est pas mon livre. Ça, c'est Caroline. Le mérite lui revient. Je veux plus qu'on ait l'image de la prostituée, de la courtisane, non. Elle voulait être chanteuse, et c'est pour ça qu'elle est devenue dure. Parce qu'elle n'a pas pu réussir à cause d'une maladie, et à cause de ça, elle s'est vengée de son homme et de son échec dans le bel chant, bel canto, peut-être en se donnant, et en se faisant payer, très fort.
Elle n'avait pas froid aux yeux non plus. Elle dit quelque part, à un carrefour, prends le chemin le plus risqué et tu verras que c'est un raccourci.
Oui, oui, c'est très beau, ça.
Elle rentre dedans,
ça,
quand même.
Ça, c'est très beau, oui.
Les hommes qui se glissaient dans le lit de ma mère passaient leur temps à me peloter. Entre autres, un râleur à gros sourcils. D'une voix rongée par l'alcool, il me ordonnait « Agustina, à la niche !» J'y ressemblais beaucoup à ma mère, et quand elle boudait, c'était moi qu'il tripotait et bécotait. Je suis devenue très désobéissante, rebelle, disait-on, simplement parce que j'ai refusé de me laisser embrasser et de faire le ménage dans la chambre de mes frères. Mais pourquoi aurais-je dû me crever pendant qu'ils allaient semer la cisanie dans les tavernes? Cela m'a obligée à réfléchir sur mon caractère indocile. On m'a toujours accusée d'avoir des traits plus masculins que féminins. « Tu ressembles à un homme », me disait ma mère. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi ce qui était une qualité chez l'un devenait un vice chez moi.
Alors, c'est pas la voix de la belle Otero. C'est une comédienne qui s'appelle Paola Lago. Mais là, il y a toutes les chances de penser que la belle Otero parlait comme ça.
Elle est galicienne, Paola. Aussi.
Voilà, elle est galicienne. Ouais. On a enregistré sa voix.
Non. Je pense que sa voix existe dans les archives de l'INA, mais sa voix en tant que chanteuse, non. En venant à Paris, elle aurait dû suivre des cours de la Malibran, mais ensuite, non. Elle est partie par cette voix. Du sexe.
Mais cette...
La voix du sexe.
La voix du sexe.
Pas la voix...
La voix de la gorge, la voix du sexe.
La voix du sexe.
Pourquoi la voix du sexe?
Parce qu'elle était très douée et parce qu'on l'a payée très bien. C'est-à-dire qu'elle a fait une fortune immense. Et c'était sa seule façon de se défendre dans la vie, de gagner de l'argent.
Dans ses cahiers, là, dans ses carnets... C'est un personnage. Moi, j'ai pensé tout le temps à la fiancée du pirate, hein, le film de Nelly Kaplan. C'est-à-dire que c'est un personnage à la fois féministe et féminin, hein, qui se bat avec son sexe, avec les armes qu'elle a, mais qui est une bagarreuse, qui est un personnage entier. C'est pas quelqu'un de soumis, quoi. Hein, c'est une fausse soumise, en fait, telle qu'elle apparaît dans ses cahiers.
Oui, mais enfin, il faut savoir qu'elle était très amie, sûrement amante, de Colette. Donc déjà, sûrement Colette lui a appris à se défendre, et à avoir quand même une idéologie, disons. Bon, elle était très amie de Cocteau. de Aristide Briand. Donc c'était des gens quand même qui étaient, à l'époque, ouverts et progressistes.
Alors, elle raconte tout ça à l'automne de sa vie. Elle est un peu aigrie.
L'hiver.
C'est l'hiver de sa vie. Oui. Il y a des passages où elle est quand même assez aigrie. Elle parle des jeunes qu'elle voit à Nice, où elle finira ses jours. Et elle dit des jeunes, si au moins ils avaient l'idée de la tristesse de mourir quand on n'a pas comblé toutes ses envies et qu'on continue de tout désirer, quand on a baisé toutes les lèvres et bu tous les vins sans avoir étanché l'espérance qui nous ronge. Ces gens n'ont pas d'aspiration, c'est pourquoi ils meurent tôt. Les miennes sont-elles insatiables? Mon cœur pourrait vivre 1000 vies, c'est superbe. Hein
oui, c'est formidable. C'est formidable.
Cette femme alerte, dynamique, qui est à nos côtés, toujours aussi jeune d'allure et de caractère, c'est la belle Otero, celle qui fut l'une des plus fameuses danseuses du début de ce siècle. On ne présente pas la belle Otero. Dois-je vous dire madame, mademoiselle ou la belle Otero?
Oh, je vous en prie, appelle-moi Otero tout court. La belle Otero est bien loin.
Pas si loin que cela.
Me faudrait des heures et des heures pour vous raconter ma vie.
Oui, il est vrai que vous avez débuté si jeune dans la danse.
J'avais 4 ans. Et on me planquait à la porte de toutes les écoles. Parce que la nuit, je m'enfuis pour aller danser dans une boîte de nuit. Oh, c'était inné en moi.
Aussi galicienne, Mercedes. Eh bien voilà, je vais le dire quand même. Tout aussi galicienne, c'était Mercedes Péon pour clore cette nouvelle diffusion de La Belle Otero. Merci à Ramon Chao, auteur de La Passion de Caroline Otero, et puis à Paola Lagos pour sa lecture. Plus d'informations sont à votre disposition sur le site de La Basse et J'y suis en allant sur franceinter.com. À la technique, il y avait aujourd'hui Jean-Philippe Jeanne et Mathias Saléon. Réalisation Antoine Chao, assistant Coy Nguyen, assistante Pascal Pascariello et chef du répondeur Christophe Humbert. Il attend vos messages au 01 56 40 37 37. Puis il y a aussi un email daniel.mermet@radiofrance.com.
Encore un mot, Madame Otero. On a écrit dans la presse, du moins dans la presse locale, que vous étiez actuellement dans une situation, mettons, difficile.
Non.
Est-ce vrai?
Non, pas du tout. C'est-à-dire que je ne suis pas un milliardaire, je ne demande rien à personne. J'ai ce qu'il me faut dans la vie. Car en ce moment, j'ai des propositions de tous les côtés pour monter ma vie au cinéma.
Et y a-t-il déjà quelque chose de décidé
dans ma foi, dans ma misère dorée, il n'y a rien de décidé encore. Ça me permet encore d'attendre et donner la préférence à celui qui me payera le plus cher.
Bien voilà, au moins une réponse bien nette. Merci, Belle Otero, pour toutes ces confidences qui nous ont ramenés à la belle époque 1900.
Je vous en prie.